Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est notre troisième et dernière journée ici au CIMI, porte-maillot au Palais des Congrès. C'est d'ailleurs la dernière fois que le CIMI a lieu au Palais des Congrès, puisque à partir de 2025, en décembre 2025, ça aura lieu porte de Versailles. Voilà, c'est un vrai changement. On est ravis d'être avec vous. Je prends la suite de notre amie Bérénice. Justement, on égrène un petit peu la sphère immobilière et de toutes les solutions. On va parler énergie. On va parler rénovation énergétique, on va parler transformation environnementale. Et pour cause, on a l'un des principaux acteurs majeurs en Europe sur le plateau. Il est le président de ACT Commodities France. Bonjour Olivier Oisanin.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, mieux ce serait de la gourmandise. Bah, ceci dit, vu le climat actuel, vaut mieux qu'on parte de bonne humeur. Olivier, ACT, acte. ACT, même, j'aime bien beaucoup le nom d'ailleurs, c'est un acteur majeur en Europe qui est une entreprise originaire de Hollande. Parlez-nous-en, décrivez-nous un petit peu votre activité. Vous avez des activités multipolaires sur toutes les classes d'actifs immobiliers, bien sûr.
Tout à fait. Alors effectivement, le groupe ACT est aujourd'hui une entreprise basée à Amsterdam en Hollande, qui est un groupe mondial, puisque nous sommes présents sur le continent européen, américain, mais également asiatique, avec des positions au Japon, en Chine et à Singapour. Le groupe ACT est aujourd'hui une entreprise qui a la volonté d'accompagner les grands groupes industriels et tertiaires sur les grands enjeux de la décarbonation, qui sont aujourd'hui au centre des préoccupations. Vous l'avez dit, le marché est aujourd'hui compliqué. On voit très bien qu'il y a eu des évolutions fortes, notamment liées aux conditions des taux d'intérêt, des taux longs, qui vraisemblablement sont venus pour durer un peu, en tout cas quelques années, selon les économistes. Et donc, les grands enjeux aujourd'hui pour ces acteurs du tertiaire, mais également les acteurs industriels, c'est de travailler sur la décarbonation, l'efficacité énergétique et l'électrification des usages.
Alors, justement, la décarbonation, c'est un sujet majeur, puisque on se rend compte que là où, finalement, les entreprises avaient imaginé pouvoir décarboner leur parc, la loi, les contraintes financières, les normes RSE, ESG, la taxonomie, a accéléré le process. Est-ce que vous pensez que, justement, les entreprises aujourd'hui, notamment sur les actifs tertiaires logistiques, ont clairement entamé leur mue au niveau de leur parc locatif notamment, et que si on devait faire une comparaison, on voit bien qu'il y a un mouvement beaucoup plus élevé. Est-ce que vous l'attribuez au fait à la contrainte ? Est-ce que, par exemple, l'application du décret tertiaire ou du décret BAX, par exemple, a accéléré le processus ?
Alors, je vais prendre un peu de recul avant de répondre à cette question directement. Si vous voulez, je pense que on a aujourd'hui, de par les événements malheureux qui ont pu avoir lieu en Ukraine, pris conscience de quelque chose que l'on savait déjà, c'est que la souveraineté énergétique, elle est absolument clé dans le dispositif. Donc, bien évidemment, des réglementations viennent appuyer ces enjeux-là. Néanmoins, aujourd'hui, ce que les acteurs ont pris conscience, c'est qu'il est absolument essentiel de réduire cette facture énergétique. Il est absolument essentiel d'enclencher cette décarbonation pour des enjeux économiques, de compétitivité. Le coût de l'énergie, c'est aujourd'hui une part d'OPEX considérable dans les usages. Et puis, bien évidemment, également pour des enjeux environnementaux, puisque au-delà des enjeux politiques et économiques, à un moment donné, de toute façon, on est obligé de s'y mettre si on veut lutter contre le dérèglement climatique qui est absolument essentiel aujourd'hui. Donc oui, les acteurs ont enclenché cette mue. Bien évidemment, la route est encore longue, mais heureusement, il existe aujourd'hui des dispositifs, des technologies qui permettent de financer en douceur cette transformation, et notamment, bien évidemment, l'un des dispositifs que l'on opère au quotidien, qui est le certificat d'économie d'énergie, qui est un outil majeur de la transition énergétique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, d'ailleurs je suis très étonné, que des asset managers, des patrons de property connaissent assez mal le dispositif, et je vais même aller plus loin, ils ne l'utilisent même pas. Ça vous surprend ou pas, ça ?
Alors, est-ce que ça me surprend? Oui, ça me surprend.
C'est vrai, hein, c'est
absolument.
Des gros acteurs qui disent, ah bon, je peux avoir des aides complémentaires, mais ne serait-ce que 5 ou 10% des travaux, par exemple, lorsqu'on respecte un cadre, hein, vous allez nous expliquer pour ça, mais justement, ça ne leur vient pas à l'esprit.
C'est effectivement, alors c'est pourtant un dispositif hein, qui a été mis en œuvre en 2006 en France, donc on parle d'un dispositif qui a bientôt 20 ans, qui est aujourd'hui l'outil de financement premier de la transition énergétique. C'est en quelque sorte, on va dire, une taxe aux pollueurs. Donc c'est une subvention privée qui est aujourd'hui portée par les producteurs et les vendeurs d'énergie qui, au titre de leur activité impactante, se doivent de financer un certain volume d'économie d'énergie qui se matérialise par un outil qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie. Donc chaque obligé, vendeur de carburant, donc c'est du, bien évidemment.
Par exemple, c'est
Total, Engie, EDF.
Avia, voilà.
Bon, tout okay. À fait. Ont des obligations qui leur sont fixées par période. Alors, ce sont des périodes aujourd'hui de 4 ans. On va normalement, très prochainement, rentrer dans une nouvelle période à compter de 2026, alors ou 2027. On a aujourd'hui un petit moment de flottement, mais c'est néanmoins des périodes de 4 ans pendant lesquelles ces obligés ont une obligation à remplir. Et donc, pour ce faire, ils se doivent d'aller sourcer, générer des projets d'efficacité énergétique qui génèrent des certificats que nous sommes à même de valoriser pour venir réduire le coût de ces projets. Et donc, de facto, réduire, diminuer le retour sur investissement.
Comment vous les opérez, vous? Puisque je crois qu'il y a une catégorie, il y a des catégories, il y a des délégataires, il y a des mandataires. Expliquez-nous pour qu'on soit plus clair pour le public.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, il existe deux typologies d'acteurs. Vous avez ce que l'on appelle les délégataires. Donc le délégataire qui est ACT France, c'est une société qui a la possibilité d'engager des projets de rénovation énergétique en son nom et donc de générer des certificats d'économie d'énergie qu'il peut par la suite revendre notamment à des obligés. Et vous avez des...
C'est-à-dire que c'est vous qui prenez la main dès le début?
Tout à fait.
Et après, vous allez voir les pollueurs, enfin les pollueurs, on peut dire les pollueurs, enfin les obligés. Les obligés, c'est les pollueurs, c'est ça?
Non, mais je
caricature un peu, mais voilà, vous allez voir Total, vous allez voir les gros players.
Tout à fait.
Et vous les revendez?
Absolument.
Oui.
Et on les aide en fait à remplir leurs obligations. Et vous avez également un autre statut qui est également le nôtre, qui est le statut de mandataire, où là vous avez effectivement des obligés qui vous donnent un mandat, qui vous demande de remplir, de les aider à remplir leur obligation via la mise en place d'un mandat.
Et la meilleure position, quand je vous écoute, c'est celle de délégataire, non ?
C'est effectivement la meilleure configuration, néanmoins c'est la plus complexe.
On a l'impression que vous avez le contrôle quand on dit délégataire, que c'est mieux pour le... In fine, pour ce que vous engagez vis-à-vis des clients finaux qui vont transformer leur parc. Est-ce qu'on n'est pas plus en sécurité avec un délégataire ?
L'avantage de travailler avec un délégataire, c'est qu'il y a notamment des enjeux de certification ISO. Donc tous les délégataires sont aujourd'hui certifiés ISO 9001, donc qui est la certification est renouvelée très régulièrement et qui impose un cadre de travail, des processus, des reportings, bien évidemment gage de sérieux pour les organisations, les partenaires et les clients avec lesquels on travaille.
Alors c'est important et c'est pas anodin hein, comme question, puisque effectivement, vu les enjeux environnementaux sur des volumes en parc tertiaire très importants, vous savez, on parle de dizaines, de centaines de millions de mètres carrés, hein, donc c'est vraiment pas neutre. Quand vous voyez aujourd'hui le CIMI, parce que vous y êtes venu récemment hein, au CIMI, je crois que c'est la première fois, mais il me semble que vous avez un stand ici.
Tout à fait.
C'est la première fois. Qu'est-ce que vous venez y chercher et comment, finalement, s'est passé ces deux jours? Si je vous demandais, là, Olivier Wazana, de me donner un peu la prise de température, il y a eu beaucoup de monde sur votre stand. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que, aujourd'hui, vos équipes ressentent à travers ces deux premiers jours?
Donc, ce que je venais y chercher, c'est effectivement déjà une prise de température du marché. Puisqu'on entend beaucoup, notamment avec l'élection américaine et l'arrivée de Trump, est-ce que les enjeux de décarbonation sont toujours d'actualité? Est-ce que l'Europe va continuer la trajectoire qu'elle a amorcée aujourd'hui ou pas? Donc déjà, c'était important pour moi d'avoir accès aux dirigeants de ces grands groupes pour comprendre quel était leur état d'esprit par rapport à ça. J'ai été ravi vraiment de découvrir et de confirmer cette vision qui était la leur, que bien évidemment aujourd'hui les entreprises européennes ont amorcé leur décarbonation et c'est absolument stratégique pour elles de continuer à la mettre en œuvre. Donc ça, c'était vraiment le premier point. De nous assurer que nous étions alignés avec l'intégralité des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Et je suis absolument ravi de savoir que ce cap est maintenu. Et puis, par ailleurs, c'était également comprendre aujourd'hui, de manière un peu plus précise, ce vers quoi ils souhaitaient aller. En termes de projets à mettre en œuvre, en termes, alors on peut parler par exemple de production, d'autoconsommation, on peut parler PPA, mais on peut également parler projet de rénovation énergétique. Power Purchase Agreement, donc c'est effectivement avoir accès à des contrats d'achat d'énergie verte. Alors, qui peuvent soit prendre la forme d'un contrat d'autoconsommation ou alors de ce qu'on appelle corporate PPA. Donc, et puis bien évidemment, ces projets d'efficacité énergétique, qui sont les projets que l'on porte, savoir où ils en étaient, les informer et où les former sur ce dispositif qu'ils connaissent malheureusement encore mal et qui est pourtant un levier de financement pour eux considérable.
Claire, aujourd'hui, si on prend des bases travaux, vous pouvez trouver des aides jusqu'à quel pourcentage en moyenne ?
En moyenne ?
Si on respecte bien le cahier des charges.
Alors, si on respecte le cahier des charges, et vous avez raison, c'est un point excessivement important.
Oui, parce que tout n'est pas éligible aux travaux.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez aussi intervenir chez le client en disant, faites vos travaux de telle ou telle façon, de manière à entrer dans les fourches codines du référentiel de base ?
Tout à fait.
Est-ce que ça peut ?
Oui, absolument. En fait, la valeur qu'apporte ACT est notamment auprès des asset managers.
C'est un peu de l'AMO financier, quoi. C'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage financier, quoi.
Absolument, c'est technique et financier.
Et ça complète d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça complète aussi la maîtrise d'ouvrage technique.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre métier, c'est de travailler avec les AMO techniques, en quelque sorte, amener cette expertise technico-financière sur les cahiers des charges pour confirmer l'éligibilité, l'infirmer et éventuellement faire évoluer les typologies de travaux pour les rendre éligibles.
C'est ça. Vous pouvez agir en disant, voilà, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez, en atteignant le même objectif...
Tout à fait. Sinon meilleur.
Peut-être dans le wording, peut-être dans la classification, peut-être dans la nomenclature, de manière à entrer. Ça, c'est hyper important.
C'est absolument essentiel et c'est là où on a une vraie
valeur. C'est là où vous avez une valeur ajoutée.
Tout à fait. C'est là où on a une vraie valeur avec ces types d'acteurs-là. C'est que cette méconnaissance les amène parfois à réaliser des cahiers des charges qui pourraient être optimisés et aller chercher des financements, des subventions privées, mais néanmoins subventions, qu'ils n'avaient pas nécessairement identifiées et qui viennent, alors aujourd'hui, être un peu la cerise sur le gâteau puisqu'ils ne l'avaient pas en ligne de mire, mais demain faire partie intégrante des projections budgétaires dans le cadre de rénovation de leur patrimoine.
Donc, plutôt réussi, hein, cette première OCIMI. On voit bien que le marqueur de l'intérêt est réel. Autre question, ACT travaille sur toutes les classes d'actifs.
Absolument.
Donc vous faites du résidentiel, vous faites de l'actif tertiaire, du retail, de la logistique. Tout ce qui se construit est éligible potentiellement aux économies d'énergie et donc au C2E.
Alors, tout à fait. Le C2E est un dispositif qui s'adresse autant aux résidentiels, aux logements sociaux et aux privés.
Alors, quand vous dites le résidentiel, le logement social, à qui vous vous adressez ? C'est qui vos clients ? Les bailleurs sociaux, les propriétaires bailleurs, par exemple, d'immeubles en bloc. Mais c'est pas de l'individuel. C'est pas, par exemple, monsieur, madame Durand qui veut changer sa PAC ou qui veut faire des travaux de rénovation énergétique. C'est pas votre strate.
Non, ACT intervient exclusivement sur
des ensembles.
Voilà, le B2B et les collectivités et bailleurs sociaux.
Okay. Une copropriété, par exemple.
Donc, une copropriété est effectivement éligible
dans votre scope.
Dispositif et dans notre scope.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les acteurs privés du tertiaire, avec les collectivités, donc les villes.
Les villes, elles viennent chercher quoi ? C'est quoi ? Vous travaillez quoi ? Sur l'éclairage public ? Sur quoi ? Sur les bâtiments publics ? C'est quoi la strate, justement ? À quoi on peut, je veux dire, s'attendre lorsqu'on est dans une collectivité publique ? Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. J'étais dans une collectivité publique qui avait un projet de changer tout son éclairage. Mm-hmm. avec un système d'éclairage LED, de basse consommation, avec un objectif de réduire, alors, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va en parler, mais aussi l'objectif de réduire sa consommation d'énergie.
Bien sûr.
Parce qu'il y a une double vertu dans ce que vous dites. C'est à la fois l'impact environnemental, bien évidemment, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est très bien, mais aussi d'avoir être un facteur d'accroissement de la valeur par la baisse des coûts de l'énergie.
Tout à fait. Donc, si vous voulez, le travail qu'on opère, oui, de l'éclairage LED est aujourd'hui éligible au dispositif. Intrinsèquement, c'est de toute manière une solution qui, même sans l'éligibilité de ce dispositif, est profitable assez rapidement. Donc l'enjeu pour nous avec les collectivités, mais c'est le même schéma avec les acteurs tertiaires, c'est déjà de prioriser. Dès lors qu'on est sur des collectivités, aujourd'hui, pour nous, l'enjeu majeur, il s'opère surtout au niveau des raccordements des bâtiments au réseau de chaleur. Voilà, ça, c'est un enjeu très fort que l'on accompagne et que l'on finance massivement et qui est vraiment un outil différenciant aujourd'hui d'attractivité pour une collectivité parce qu'il permet de pérenniser un coût de l'énergie vert dans la durée et c'est clé pour l'attractivité des territoires. Donc c'est vraiment notre métier de les accompagner à identifier éventuellement, si ce n'est pas le cas, mais beaucoup font déjà ce travail en amont, les réseaux de chaleur auxquels pourraient être connectés un certain nombre de bâtiments et les accompagner au financement avec les acteurs majeurs qui opèrent ces réseaux de chaleur.
Alors, le sujet qui fâche, c'est souvent le climat délétère qui tourne autour des opérateurs d'énergie, notamment des brokers, bien évidemment. De multiples scandales ont eu lieu. On a des grandes sociétés, parfois qui ont pignon sur rue, qui se sont faites épingler. On appelle ça, grosso modo, l'éco-délinquance. C'est un vrai sujet, un sujet qu'on connaît bien ici dans notre média, puisqu'on en traite souvent. Qu'est-ce que vous répondez au public lorsqu'on vous dit votre métier pas simple, plutôt tentant, qui crée des effets d'aubaine? Vous leur répondez quoi justement à ces players qui finalement, certains players qui jettent le discrédit peut-être sur les bons? Comment vous réagissez-vous de votre point de vue, puisque vous êtes une entreprise structurante, vous faites un chiffre d'affaires extrêmement important, donc vous avez fait vos preuves. Ça doit vous énerver, ça doit vous titiller quand vous voyez ce type d'acteur venir finalement polluer l'image plutôt saine que vous avez lorsque vous accompagnez vos clients.
Vous avez absolument raison, Sylvain. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément, pour rester très poli. Dans la mesure où ACT Group croit profondément dans la performance et l'importance de ce dispositif pour aller chercher nos engagements des accords de Paris. ACT, c'est évidemment une structure déjà qui fait bien d'autres choses que le certificat d'économie d'énergie, hein, puisque comme je l'évoquais, on est un groupe aujourd'hui qui réalise 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On accompagne vraiment les entreprises sur tous les enjeux, donc l'enjeu réputationnel, il est absolument clé pour nous. Ce dispositif-là est clé dans la transformation, il doit être opéré proprement. On a vu dans le dernier rapport de la Cour des comptes que bien évidemment le doigt a été mis sur la nécessité d'opérer des contrôles. Alors énormément malheureusement de fraudes qui sont opérées dans le B2C, qui est un environnement dans lequel on ne travaille pas aujourd'hui. C'est moindre dans le B2B, mais néanmoins, ce qui est absolument essentiel, c'est de renforcer les contrôles. Il y en a déjà de plus en plus. Le pôle a réagi de la bonne façon, mais il faut continuer et de notre côté, on n'hésite pas par ailleurs à mettre en œuvre des procédures de contrôle qui vont bien au-delà des enjeux réglementaires.
En fait, je pense que c'est certainement la meilleure attitude parce qu'effectivement, vous devancez même les obligations et les contraintes, puisque ça pourrait vraiment s'apparenter à une forme de contrainte qui vous empêche d'eux, mais non, vous avez pris le sujet à l'envers, c'est-à-dire que vous allez bien plus loin, parce que le but, c'est bien évidemment d'éliminer purement et simplement tous ces players qui sont aujourd'hui de véritables voyous, voilà, il faut le dire, parce que justement, ils entravent nécessairement quelque chose qui est bien plus vertueux, qui est la transformation du parc, et ça, c'est un vrai sujet. Dernière question, le trimestre 2025 s'annonce rock'n'roll, chahuté, hein, on peut le dire. Il y a comme, voilà, on n'a pas de gouvernement. On a beaucoup. Alors, je pense pas que le modèle CSE soit menacé, mais ça crée toujours des envies, des appétences, notamment des appétences publiques. Or, c'est un dispositif privé, pour le rappeler quand même. C'est, on ne parle pas de MaPrimeRénov', là. Hein. On parle des certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne vais pas vous demander de faire une prophétie, hein, mais...
Merci.
Bon, vous avez performé, vous êtes l'acteur majeur. D'ailleurs, les amis, au-dessous du podcast, vous avez l'adresse d'ACT avec l'URL. Vous cliquez dessus et vous allez screener tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment remarquable. Comment, justement, vous le voyez, cet avenir ? Alors, pour vous, j'allais dire... Je vais caricaturer, mais qu'on n'ait pas la crise, hein. Je veux dire, contracyclique ou pas, la transformation des bâtiments est une nécessité. Mais une nécessité même, j'allais dire, pour consolider et accroître la valeur des actifs que vous accompagnez. Parce que non seulement les valeurs locatives aujourd'hui sont un peu flattes, et même elles sont parfois un peu régressives et à la baisse, il y a un rapport qui a été publié, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. On a tous cru qu'en France, il y avait 55 ou 60 millions de mètres carrés. Non, en tout, avec la province, 73 millions de mètres carrés. Ben, il y en a 173 millions, en fait. Parce qu'il y a une étude qui a intégré tous les détenteurs d'immeubles qui n'entrent pas dans le scope, en fait, du spectre des mètres carrés, notamment avec les brokers. Ça veut dire que le marché, il est gigantesque.
Le marché ?
Gigantesque. C'est le chantier du siècle.
Je pense que c'est le chantier du siècle. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a une petite période de flottement. On a été rassuré puisque on a eu dernièrement une réunion importante qui a annoncé la P6, donc la nouvelle période qui devrait être mise en place, soit alors normalement en 2026. On ne sait pas encore si elle sera mise en place en 2026 ou en 2027. En tout cas, son existence a été confirmée.
Alors, vous nous expliquez juste parce que qu'on comprenne bien. C'est quoi ? C'est un nouvel organisme, une nouvelle norme ? C'est quoi ?
Non, donc en fait, c'est le dispositif des C2E fonctionne par période. L'obligation donnée aux pollueurs, si je puis dire, aux obligés...
Elle a une limite dans le temps ?
Voilà, elle s'opère sur des durées de 4 ans. Donc là, d'accord. Officiellement, on a annoncé qu'une nouvelle période, alors de 4 ans, de 5 ans...
C'était ouverte.
Allait s'ouvrir. Donc, ce qui était essentiel pour des acteurs comme nous, mais également pour l'intégralité des acteurs de la rénovation énergétique.
Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on peut dire, voilà, c'est fini.
C'est quelque chose, ah, mais je l'espère pas, le dispositif, encore une fois, même si parfois il y a des vues un peu contradictoires à montrer son efficacité, il existe, il vient d'être lancé par exemple en Espagne, d'autres pays se l'approprient, cela démontre bien qu'il est important pour la rénovation énergétique, c'est aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois qui sont directement corrélés à l'existence de ce dispositif, absolument essentiel pour mener à bien la transition. Donc c'est essentiel. Oui, heureusement, le gouvernement a pris la main là-dessus, je l'espère, avec des annonces plus précises très prochainement. Mais néanmoins, les acteurs aujourd'hui du tertiaire, de la rénovation, mais également de l'industrie, des transports, très certainement, dans le cadre de cette sixième période, vont pouvoir compter sur les subventions privées amenées par les C2E pour financer ou cofinancer leurs opérations de rénovation énergétique.
Merci beaucoup, Olivier Ouazana. L'adresse du site internet d'ACT, donc, il est sous le podcast
www.actcommodities.com,
tout simplement. Alors, notre ami Théo va mettre l'URL. C'est extrêmement intéressant. Comment on fait pour vous contacter ? On va sur le site. On envoie
absolument.
Un mail ou on vous appelle directement, tout simplement.
On m'appelle directement, voilà. Le week-end, les jours fériés, sans aucun problème.
Voilà, vous nous appelez également à la radio si vous avez des questions à poser. Je sais que vous en posez beaucoup puisque vous avez du mal à décrypter. Parce que c'est incroyable, mais c'est vrai, les professionnels comme les particuliers ont du mal à décrypter cette actualité parce que ça leur fait peur, hein, bien évidemment. Et puis après, effectivement, parce qu'une fois que vous l'avez financé, il faut quand même trouver les bons artisans, les contractants généraux, ceux qui savent faire les travaux. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, bien évidemment, pour pouvoir accomplir cette transformation. Merci Olivier Ouazana. Je rappelle, vous êtes encore d'ailleurs aujourd'hui ici au CIMI. On peut vous retrouver. Vous avez un stand.
Absolument.
À quel étage ?
Au premier étage, E56.
Voilà, E56. Si vous avez la possibilité de venir ici au CIMI, vous avez la possibilité également d'aller voir Olivier Ouazana et l'ensemble de ses équipes. Voilà, à suivre toute une programmation. On va être avec vous jusqu'à 17h aujourd'hui. On avait fait d'ailleurs, les amis, un très très beau congrès FNAIM où il y a eu beaucoup beaucoup de discours politiques. Il n'y avait d'ailleurs que des anciens ministres. Finalement, il y a plus d'anciens ministres aujourd'hui que de ministres en exercice. On va quand même attendre et espérer qu'on ait un prochain gouvernement parce que je peux vous dire que c'est pas simple en ce moment, notamment pour les primo accédant. Merci Olivier Wazanon.
Merci beaucoup.
On enchaîne dès 11h avec une nouvelle interview. Restez avec nous, restez connectés sur Radio Immo et sur Territoria.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solar et IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.